Pardon, je vais y arriver. Si, ça y est, c'est le direct. Bonjour à tous. Bienvenue sur Antenne de Graphite. Vous écoutez Bioteam, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. J'étais absent quelques semaines. Voilà, petit problème de santé qui ne permettait pas de pouvoir assurer cette émission. J'espère que, niveau de la voix en fait, mais ceux qui m'écoutaient en avril ont bien vu que je peinais. Donc j'espère que ça va pouvoir durer jusqu'à la fin de la saison en juin pour pouvoir parler de l'actualité scientifique, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer là encore au niveau de la science dans différents domaines. Alors objectivement, l'actualité scientifique n'est pas véritablement réjouissante. C'est ce que l'on va voir dans cette émission aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est l'actualité qui est comme ça, malheureusement. Et voilà, pendant 7 heures, nous allons un petit peu nous intéresser à la revue de presse de l'actualité scientifique, et puis écouter aussi un petit peu de musique pour pouvoir un petit peu nous reposer également. Il fait un temps magnifique sur Compiègne, un petit peu partout, je pense, sur la moitié nord. Et si vous souhaitez réagir également en direct, vous pouvez envoyer des SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Je suis arrivé peut-être une vingtaine de minutes dans le studio pour pouvoir préparer toutes ces émissions. Et alors, moi j'ai toujours fasciné par Enrique, qui a une énergie extraordinaire dans le studio. Il chante tout le temps, mais je ne sais pas comment il fait. Mais ça nous donne de la bonne humeur dès le samedi matin sur l'antenne de Graphite toutes les semaines avec Vibrosoys. Et puis après, l'actualité scientifique à midi, c'est plus sérieux, hein. Je ne vais pas nécessairement chanter tout le temps, mais voilà, c'est un autre style d'émission, mais c'est toute la richesse également de la programmation de Graphite depuis plusieurs années. On a un samedi, les matinées du samedi sont vraiment intéressantes et joyeuses. Nous sommes en direct, donc si vous souhaitez réagir, 06 95 065 026, nous sommes des déjà le 10 juin. Et au niveau de l'éphéméride, il n'y a pas eu nécessairement d'actualité assez importante ou de grandes trouvailles un 10 juin, mais il y a eu la naissance de Pierre-Maurice Duhem, qui est né un 10 juin 1861, physicien, chimiste, historien, épistémologue français. C'était un petit peu l'époque où on touchait à tout. Il a été un historien des sciences. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le système du monde. Alors ça vous pose de trucs, hein, le système du monde. C'est un peu une histoire des doctrines cosmologiques. C'est vraiment remarquable. C'est un véritable monument de l'histoire des sciences, des origines à la Renaissance. C'est une publication en 10 volumes. Hein, donc comme ça, ça vous remplit une bonne bibliothèque. Et ça s'est étalé au cours du XXe siècle. Il défend une interprétation assez intéressante du progrès scientifique. Et il réévalue aussi l'importance du Moyen-Âge avant l'émergence de la science moderne. Pierre-Maurice Duhem, qui est donc né un 10 juin 1861. Duhem est un nom qu'on ne connaît pratiquement pas. Il y a peut-être une rue quelque part à Paris et encore une petite ruelle, une impasse. Donc il n'est pas nécessairement passé à la postérité. Ce n'est pas le cas du deuxième scientifique qui, lui, est décédé un 10 juin en 1836. Il s'agit de André-Marie Ampère. Et là, Ampère, oui, ça nous dit quelque chose. Mathématicien, physicien, chimiste, philosophe français. C'était toujours l'époque où on faisait plein de choses. Et il était membre de l'Académie des sciences, professeur à l'École Polytechnique et au Collège de France. Il était autodidacte et Ampère, il contribue bien sûr au développement des mathématiques en physique. Il fait d'importantes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme. Nous sommes au cœur du 19e siècle et il va édifier les fondements théoriques. Il découvre les bases de l'électronique de la matière. Il est également l'inventeur de nombreux dispositifs et d'appareils, notamment le télégraphe électrique et l'électro-aimant. Ampère, il est considéré comme le précurseur de ce qu'on appelle la mathématisation de la physique, et c'est un peu l'un des derniers savants universels. Il est créateur aussi du vocabulaire de l'électricité. Il va inventer des termes qu'on utilise presque tous les jours, le courant électrique, la tension électrique. Les termes de courant et de tension, ça vient d'Ampère. Et bien sûr, son nom à Ampère a été donné à l'unité internationale de l'intensité du courant électrique. C'est aussi un peu pour ça que son nom est passé à la postérité, c'est devenu un nom commun, un nom d'unité. Il est par ailleurs un brillant philosophe. auteur d'une pensée un peu originale, voire complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que de son vivant en père, il a déjà été reconnu par ses pairs comme un savant de première catégorie. Napoléon le nomme inspecteur général de l'université française impériale. Et en 1814, il est donc élu membre de l'Académie des sciences à Paris. Il est également correspondant de plusieurs académies européenne. Il entretient des relations nourries avec la plupart des savants qui lui sont contemporains. André-Marie Ampère est donc décédé un 10 juin 1836 et c'est un personnage vraiment intéressant et sa biographie est aussi assez éloquente parce que voilà, il était autodidacte et c'est toujours intéressant ce genre de personnage de voir d'où ils viennent et de voir ensuite ce qu'ils ont pu apporter au niveau de l'électricité, bien évidemment. Voilà, c'était l'éphéméride de ce 10 juin. Au niveau de l'actualité scientifique, vous avez sûrement vu ces images totalement impressionnante, pour ne pas dire effrayante. On a même un peu l'impression que c'est un film un petit peu apocalyptique qui se passe à New York. L'atmosphère de New York a viré au gris mardi, à l'orange mercredi matin, et puis carrément une espèce de teinte orange-rouge qui était ultra vive mercredi soir. On a tous vu ces photos et ces vidéos assez impressionnantes. En cause, c'est un nuage de fumée des incendies qui ont lieu au Québec. Et ce nuage a été poussé vers le nord-est des États-Unis par les vents d'une dépression. Alors, ce phénomène, il avait déjà été prévu quelques jours avant par les services météo, mais en fait, personne ne s'attendait à une telle concentration de particules de cendres. Depuis donc plusieurs jours, New York a désormais la pire qualité de l'air au monde. C'est ce qui a été mesuré dans une grande ville. C'est la première fois que ça arrive. La pollution a atteint le niveau dangereux entre mercredi soir et jeudi matin. Le niveau le plus élevé sur une échelle de 5. Le plus important jamais mesuré dans la ville depuis le début des relevés. Et donc la concentration de microparticules atteint un niveau 14 fois plus élevé que les seuils recommandés par l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Et donc, il a été conseillé aux habitants de rester chez eux et de porter un masque filtrant, c'est pas n'importe quoi, en extérieur. La visibilité, elle était tellement mauvaise, notamment mercredi après-midi, que certains vols ont été annulés à l'aéroport de New York LaGuardia. D'autres vols ont été retardés à l'autre aéroport international de Newark. Et la situation météo, elle va rester encore bloquée jusqu'à aujourd'hui. On attend un changement possible demain parce que les vents vont changer de direction et puis l'arrivée probable des pluies devrait faire retomber ces particules au sol sur le nord-est américain. Je ne vous raconte pas l'état des véhicules par la suite, mais enfin ça c'est anecdotique parce qu'on suffoque à New York sous cette fumée provoquée par les incendies au Canada. C'est vraiment un phénomène assez inquiétant, bien évidemment. Et là, encore, on atteint des niveaux jamais atteints jusqu'à maintenant. Vous écoutez Biofitine sur l'antenne de Graphite, à la fois sur 94.9 pour ceux qui nous suivent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. On va écouter un peu de musique et pendant ce temps-là, vous allez réfléchir à cette question. Pourquoi la Chine va creuser un trou de 10 km de profondeur? Pourquoi elle s'aventure à faire ça? Qu'est-ce qui lui arrive à la Chine? Réponse après David Lafort sur l'antenne de Graphite.
Regarde. chose à toi, fais ce que tu veux de moi. Je suis ta chose, je suis ta chose, je suis ta chose à toi, fais ce que tu veux de moi. Je suis ta chose Fais ce que tu veux de moi. Je suis ta chose. Je suis ta chose. Je suis ta chose à toi. Fais ce que tu veux de moi. Je suis ta chose. Je suis ta chose.
Canapé, c'était David Laforce sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite 94.9 FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et la rediffusion, bien sûr, tous les mardis matin à 10h. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir en direct aujourd'hui au 06 95 065 026. Notamment peut-être pour nous donner la réponse à cette question que je vous donnais avant le titre que l'on vient d'écouter. C'est pourquoi la Chine va donc creuser un trou de 10 km de profondeur au sein de la croûte terrestre. C'est un objectif du nouveau forage que vient d'entreprendre la Chine dans le bassin du Tarim. Ce puits deviendrait ainsi le plus profond du pays et s'approcherait un peu du record mondial qui est détenu actuellement par les Russes. Les Russes, ils avaient atteint une profondeur d'un peu plus de 12 km. C'était en 1989 dans la péninsule de Kola. Et en fait, il leur a fallu aux Russes 20 ans pour essayer de forer ce puits de Kola avec l'objectif qui était purement scientifique, c'était d'atteindre la limite entre la croûte et le manteau terrestre. Et les scientifiques, ils ont appris à leurs dépens que la croûte continentale était bien plus épaisse que prévu et que forer à de telles profondeurs, 12 km, eh bien ça représente un véritable défi technique. Ce sont ainsi les difficultés techniques face aux hautes pressions et aussi au niveau des températures qui règnent à ces profondeurs qui ont finalement mis un terme à cette aventure scientifique. Eh bien, malgré cet antécédent et donc quelque part cet échec, eh bien, Sinopec, qui est l'une des entreprises pétrolières impliquées dans le projet chinois, eh bien, cette entreprise, elle se veut plutôt optimiste parce que l'objectif, c'est de forer donc un nouveau puits en Chine en seulement environ un an et demi. Donc c'est assez ambitieux, on va dire, par rapport aux 20 ans qu'il a fallu pour les Russes. Alors les techniques de forage, bien sûr, elles ont quand même largement évolué depuis la fin des années 80. Il n'empêche que cet objectif est assez ambitieux. Un objectif qui, à la vue des différents acteurs du projet, n'est pas vraiment scientifique d'ailleurs, hein, parce que le but, c'est d'atteindre des roches qui sont formées durant la période du Crétacé. Le puits pourrait même atteindre des roches encore bien plus anciennes, c'est-à-dire des roches qui datent de l'âge cambrien. Ça veut dire des roches qui datent d'un peu plus de 500 millions d'années quand même. Quel est l'intérêt de tout ça ? Eh bien, je pense que vous avez dû deviner, ces niveaux sont suspectés être la source d'un important champ pétrolier, bien évidemment. Un champ qui est déjà exploité à l'heure actuelle. Et en fait, les scientifiques et les industriels chinois, ils vont tenter de savoir si oui ou non, ces roches ultra profondes peuvent encore contenir du gaz et du pétrole et donc représenter un nouvel intérêt économique, bien sûr. Alors, comme de nombreuses nations à l'heure actuelle, la Chine tente de réduire sa dépendance aux importations de minerais, de métaux et d'hydrocarbures. Et donc, forer en profondeur pourrait donc s'avérer être une solution. Alors, il faut préciser que cette entreprise Sinopec, elle a déjà une expérience en la matière parce qu'elle a déjà réalisé plusieurs puits de plus de 8 km, notamment dans cette région du nord-ouest de la Chine. Et donc, le bassin du Tarim représente en effet le plus grand et le plus profond champ pétrolier du pays. Ce bassin se compose d'un sort cercle formé il y a plus d'un milliard d'années, et puis ça a été recouvert par une énorme pile de plusieurs kilomètres de sédiments. Alors ce projet semble réalisé donc dans un but principalement industriel, ou en tout cas économique, mais on va aussi en profiter d'un point de vue scientifique, parce que ça va permettre aux chercheurs de mieux comprendre la nature et l'évolution géologique de ce bassin. Pour pouvoir forer 10 km de profondeur, on va utiliser 2 tonnes de machinerie qui seront mises en œuvre afin de pouvoir traverser ces roches. Mais pour les experts, plus qu'une question de technique, eh bien la réussite de ce type de projet repose surtout sur une question d'argent, parce que sa réalisation allait extrêmement coûteuse. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais en tout cas, ça se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros. Mais bon, que voulez-vous, c'est une décision politique, parce que ça s'inscrit dans un programme d'exploration voulu par le président chinois Xi Jinping. Il y a d'autres objectifs scientifiques du pays, l'exploration des océans, le développement des technologies de l'information et l'exploration de l'espace. Voilà, donc il y a toujours derrière une volonté de pouvoir trouver des solutions d'un point de vue économique et industriel, et puis on va essayer d'en profiter d'un point de vue scientifique, bien évidemment, pour essayer de glaner quelques informations qui peuvent être utiles. Je vous disais donc qu'il y avait vraiment un programme politique qui permet de lourds investissements, notamment dans l'exploration de la conquête spatiale. C'est aussi l'autre actualité d'un point de vue spatial qui concerne là encore la Chine, avec bien sûr l'ambition d'aller sur la Lune avant 2030, j'allais dire 20h30, non, 2030 bien sûr, c'est l'ambition de la Chine. 2030, c'est demain, il faut vraiment se dire que c'est une ambition assez intéressante d'un point de vue technologique. La Chine a lancé un nouvel équipage de 3 taïkonautes à destination de la station spatiale chinoise. L'équipage de la mission Chenzhou a décollé à bord d'un lanceur le 31 mai dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine. Ils sont partis du centre de lancement de Jiuquan, c'est dans le désert de Gobi, on est au nord-ouest de la Chine. 3 taïkonautes, le terme de taïkonautes, c'est le terme chinois de cosmonautes ou spationautes. On parle de taïkonautes quand on parle de chinois. Et c'est donc ce lanceur qui est donc parti. Alors, ils seront à bord du complexe orbital chinois pour une durée d'environ 6 mois. Le retour sur Terre est donc prévu en novembre à peu près de cette année. Et les 3 taïkonautes ont retrouvé leurs collègues de la mission Chenzhou 15, dont la mission tire à sa fin. Et le retour sur la terre ferme de cet équipage est donc prévu incessamment sous peu. Alors, les 3 qui sont partis, il y a quand même un vétéran qui s'appelle Jin Haipeng. Il a 56 ans, c'est le 4e vol spatial qui est pour lui, et il va commander la mission. Il est entouré de 2 trentenaires, ils ont chacun 36 ans, Zhu Yongzhu et Guy Hachao, qu'il m'excuse de la prononciation, mais ce qui est intéressant pour Guy Hachao, c'est le premier civil chinois dans l'espace. Il n'est pas issu des forces armées, comme c'était systématiquement le cas jusqu'à présent. Alors, il est spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale, et il va être particulièrement, lui, chargé des expériences dans la station. Alors, on ne connaît pas nécessairement le détail pour l'instant, mais on sait que ça va concerner des thématiques traditionnelles des expériences réalisées en orbite. Donc ça va être des expériences en termes de biologie, de médecine, de physiologie humaine, physique et sciences des matériaux également, l'environnement spatial, et on va être aussi sur le déploiement de technologies spatiales, sans oublier bien sûr des activités éducatives et militaires. Cette mission, elle marque également le premier vol du véhicule spatial Chenzhou de 2e génération. L'architecture et le design ressemblent un peu au Soyouz russe. Il y a quand même de nombreuses améliorations qui ont été apportées. Il y a moins moins de pièces, et notamment les pièces qui ont été utilisées sont des pièces désormais fabriquées en Chine. Donc la Chine à la fois va pouvoir construire ses propres lanceurs, ses propres fusées, ses propres dispositifs, et ensuite va pouvoir assurer le lancement toute seule. Elle devient quasiment autonome. Et ce véhicule mesure au moins moins de 10 mètres, ce qui est quand même assez intéressant, pour un diamètre d'environ à peu près 3 mètres. Le module orbital peut accueillir jusqu'à 3 taïkonautes pour voyager vers la station spatiale chinoise qui s'appelle Tiangong. Donc voilà, une mission qui vient de débuter à bord de la station spatiale chinoise. C'est aussi l'actualité spatiale, c'est l'actualité de la Chine. C'est de plus en plus important. Alors, la Chine, elle est aussi maligne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle communique aussi de plus en plus. C'est pour ça qu'on a l'impression que pour l'instant, il n'y a que les Chinois qui sont comment dire, actifs dans ce domaine-là. Ce n'est pas le cas, bien sûr. Il y a toujours aussi une activité qui concerne les Américains, qui concerne les Européens et la Russie aussi qui continue un petit peu à pouvoir se positionner dans ce domaine-là. Voilà au niveau de l'actualité de l'espace. Presque, encore une dernière information qui n'est pas nécessairement positive, qui nous parle de, des étoiles dans le ciel. On considère que d'ici 20 ans, il pourrait bien ne plus y avoir une seule étoile à admirer dans notre ciel. Les constellations qui sont familières aujourd'hui, eh bien, elles seraient de plus en plus difficiles à être identifiées dans le ciel. En cause, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse, de plus en plus présente. Et en fait, c'est de plus en plus présent avec l'avènement des éclairages à LED. Ces éclairages qu'on a de plus en plus dans les rues, qui sont économiques, parce qu'elles sont notamment moins consommatrices d'énergie. Donc on considère que c'est bon pour la planète. Sauf que du coup, comme elles sont économiques, on en met plus que d'habitude. Et donc, ça a été multiplié. Et il y a quelques années, les chercheurs soulignaient déjà que la Voie lactée avait littéralement disparu pour un tiers de la population mondiale, notamment au niveau de l'Europe et de l'Amérique, enfin en tout cas des États-Unis d'Amérique. Et puis, plus récemment, il y a les données d'un projet qui s'appelle Globe at Night, qui est un projet de science citoyenne qui a rassemblé plus de 50 000 observations dans le monde les 10 dernières années. Et tout ça, ces données sont venues confirmer cette espèce de tendance. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la vitesse à laquelle les étoiles deviennent invisibles pour les gens dans les environnements urbains est totalement dramatique. C'est ce qu'annonce Christopher Kidba, qui est chercheur au Centre allemand des géosciences et qui est le principal auteur de cette étude. Il ajoute que sur la période en Europe de ces 10 dernières années, eh bien, la luminosité du ciel nocturne, cette luminosité a augmenté avec une moyenne mondiale de l'ordre de près de 10%. Donc plus ça devient lumineux, moins on voit les étoiles. Si les choses continuent à ce rythme, un enfant né dans un endroit où 250 étoiles sont visibles aujourd'hui, eh bien, ne pourrait y voir qu'une centaine à sa majorité de 18 ans. C'est ce que regrette le chercheur. Alors, peu à peu, il y a des groupes qui se forment, une espèce de prise de conscience pour défendre ce qu'on appelle la nuit noire, jusqu'au Parlement britannique également. Mais il y a des mesures simples qui pourraient mener à des améliorations considérables de la situation, des lumières qui puissent être mieux dirigées vers le sol, ou encore des lumières avec des composantes rouges et oranges qui seraient mieux que des composantes bleues et blanches, et ce qui permettrait de diminuer la pollution lumineuse. Voilà, il y aura plus une seule étoile visible dans notre ciel bientôt. Tout se perd. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux dire, ça devient... Mais c'est ça, d'un point de vue économique, c'est rentable, donc on en met beaucoup plus. Que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, si vous arrivez encore à dormir à la belle étoile, eh bien, profitez-en, ça sera bientôt plus le cas. On écoute Bib Heaven sur l'antenne de Graphite et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous écoutez Graphite. À tout de suite. Oh God. Viewers, c'était Bib Haven sur l'antenne de Bib Haven, peut-être. Je sais pas. Mais pourquoi ils ont des noms compliqués? Bib Haven. Je pense que ça va être comme ça que ça se prononce. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Mais donnez-moi, je ne sais pas, toute la liste des comment dire, la prononciation de tous ces groupes. Le groupe suivant qu'on va écouter, je ne sais même pas comment ça se prononce. J'ai une dizaine de minutes pour essayer de voir ça. Il fait une chaleur dans ce studio. En plus, il fait de plus en plus chaud. Ça devient on est au mois de juin hein. Et puis les océans c'est pareil hein, ils n'ont jamais été aussi chauds. Il y a le dernier rapport du service européen Copernicus pour le changement climatique qui a été publié ces tout derniers jours en fin de semaine hein. L'Europe semble avoir été épargnée cette fois, mais le mois de mai qui vient donc de s'achever pointe à la deuxième place des mois de mai les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. On était à 0,1 degré du record, mais c'est surtout en fait la température des océans qui affiche un niveau jamais atteint jusqu'ici à cette période de l'année. Pardon, plus de 0,2 degrés par rapport aux moyennes de la période des 30 dernières années. Et déjà au mois d'avril, et les températures à la surface de l'océan avaient atteint un record. Donc deux records d'affilée qui sont battus, mais il ne faut pas nécessairement s'en réjouir. Sur les 40 dernières années, la tendance est à une hausse de 0,6 degrés. Une tendance qui devrait être encore amplifiée par l'émergence d'un signal El Niño du côté du Pacifique, car le phénomène fait généralement grimper un peu plus encore les températures, aussi bien en mer que sur terre. Le record est valable non seulement pour des latitudes comprises entre le 60e degré nord et 60e degré sud. En fait, c'est pour toutes les mers libres de glace du globe qui sont concernées. Les chercheurs ajoutent que au-dessus de la mer, les températures sont également supérieure à la moyenne, encore un autre record pour ce mois de mai, et c'est assez effrayant, notamment la région de l'Antarctique qui est particulièrement assez touchée. Alors les conséquences, elles sont assez dramatiques, en tout cas elles sont lourdes parce qu'il y a des vagues de chaleur marine qui vont fragiliser à la fois la biodiversité et les écosystèmes. Ou encore, ça va engendrer une fonte accélérée des calottes glaciaires. Et donc, pour la troisième fois déjà depuis le début de cette année. L'étendue de la banquise au niveau de l'Antarctique a atteint une valeur mensuelle record, c'est-à-dire qu'elle est 17% en dessous de la moyenne. Ça fond, et donc ça réduit la banquise. C'est des records qui s'accélèrent, ce sont des records qui se succèdent, et voilà, et on est en train d'assister de façon un peu impuissante à un emballement au niveau des températures. L'été arrive, les prévisions sont pas nécessairement optimistes, on va dire. Donc on suivra ça, bien évidemment. Au niveau deux informations d'un point de vue médecine, cette fois. Alors la première, elle est, j'allais dire, assez anecdotique, mais en fait, elle est assez intéressante. Ce sont des neurobiologistes américains qui travaillent au niveau de la Harvard Medical School, qui ont étudié l'influence des intestins et l'influence de l'alimentation sur la profondeur du sommeil. Alors, ils ont travaillé sur des mouches et des souris, et les résultats, ils ont été publiés dans la revue Cell, qui est une revue quand même assez importante, assez prestigieuse, et les résultats sont absolument inattendus. Alors, ils ont travaillé, les chercheurs, sur des drosophiles. Les drosophiles, c'est des petites mouches. On connaît particulièrement le matériel génétique des drosophiles. On a fait des expériences depuis des années et des années sur les drosophiles. Et donc, ils ont voulu essayer de travailler notamment sur les gènes qui régulent le sommeil de ces petites mouches. Les gènes, comme je vous l'ai dit, on connaît tout le matériel génétique. Donc, on sait tout de cette mouche. Donc, on sait quels gènes régulent le sommeil. Et on s'est rendu compte aussi que ce sont les mêmes que chez la souris. Et on a soumis les mouches à différentes expériences lors de leur sommeil, et notamment des vibrations. Et on s'est rendu compte que l'expression des gènes concernés, ça a été mesuré lors de l'expérience, et donc on a constaté qu'il y avait une protéine particulière qui semblait être responsable de la profondeur du sommeil lors des différentes vibrations. Si on bloquait l'expression de cette protéine, on s'est rendu compte que les drosophiles, elles se réveillaient dès qu'il y avait une moindre petite vibration, et hop, ça y est, elles étaient réveillées. Tandis que si on pouvait exprimer et donc produire cette protéine de façon plus importante, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même vibrer pas mal les tables pour pouvoir réveiller ces pauvres mouches. Et du coup, on a fait un petit peu un lien de cause à effet, où on s'est dit, du coup, c'est cette protéine particulière dont je vous épargne le nom assez compliqué, qui permet d'avoir une influence sur le sommeil, et notamment sur la profondeur du sommeil. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, et assez surprenant, en tout cas c'est là les résultats qui ont été assez inattendus, c'est que cette protéine, elle est produite dans les intestins. Quand même assez étonnant qu'une protéine responsable de la profondeur du sommeil soit produite au niveau des intestins. On s'est rendu compte qu'elle était synthétisée par les cellules intestinales et que c'était en contact direct avec l'alimentation qui était ingérée par ces animaux. Les auteurs, ils ont observé qu'un régime alimentaire riche en protéines favorise la synthèse de cette molécule qui est responsable de la profondeur du sommeil, à la fois chez la mouche et chez la souris. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que les mouches qui avaient manger un peu plus de protéines par rapport à un régime alimentaire normal, entre guillemets, avait donc du coup un sommeil beaucoup plus profond, donc il fallait quand même pas mal bouger les tables pour pouvoir les réveiller. On a pu faire ainsi des liens assez intéressants et assez inédits, car assez surprenants. Et donc, cette protéine particulière, elle a la capacité d'agir sur des neurones spécifiques qui font partie d'une structure cérébrale impliquée dans la régulation de la durée du sommeil. Et on s'est rendu compte qu'ils sont producteurs de dopamine. Alors, c'est un peu inhabituel parce que la dopamine, elle agit ici comme un élément qui va approfondir le sommeil, alors que la dopamine, à la base, c'est quelque chose qui va plutôt stimuler le plaisir. Alors, peut-être qu'on fait le lien entre le plaisir et le fait d'avoir un sommeil assez profond, donc réparateur, le lien peut être fait également. Et donc les chercheurs ont démontré dans cet article un lien direct entre la qualité de l'alimentation et la régulation du sommeil. Alors attention, on est là sur des animaux assez spécifiques, une mouche, une souris. L'idée, c'est de savoir si ces expériences, ou en tout cas ces résultats, sont transposables aussi à l'homme. Et donc, du coup, on est un petit peu au début de la démarche expérimentale. On n'est pas prêt d'avoir les résultats, bien évidemment. Mais en tout cas, ça donne des pistes assez intéressantes, parce que, déjà, on constate de plus en plus le rôle assez prépondérant de l'intestin dans de nombreux mécanismes de notre organisme. On le savait, mais là encore, ça apporte une pierre supplémentaire assez intéressante. Et puis bien sûr, si on arrive à trouver des solutions pour permettre la régulation du sommeil et notamment avoir un sommeil réparateur, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être assez intéressées par ces résultats. Donc on n'en est encore pas du tout au stade des expérimentations chez l'homme, mais en tout cas, voilà, on est sur des pistes assez intéressantes, bien sûr, et des pistes qui vont permettre d'être investiguées. Dernière information au niveau médecine, concerne cette fois la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui détruit les neurones moteurs. En fait, ça entraîne une paralysie progressive des muscles qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la motricité volontaire, c'est-à-dire la marche, la parole, la déglutition. Il existe actuellement trois médicaments qui ont été approuvés par l'administration américaine pour cette maladie incurable, mais leurs bénéfices restent limités. Ça se concentre en fait surtout au niveau de la réduction des symptômes. Et en fait, on connaît un médicament efficace, cette fois pour la maladie de Parkinson. Ce médicament est le ropinirole, pardon, et le ropinirole va pallier le déficit en dopamine. Ça, c'est une caractéristique de cette maladie de Parkinson, et ça va améliorer notamment le temps de marche. Et donc, du coup, les chercheurs ont voulu s'intéresser à ce traitement qui déjà a été utilisé plusieurs fois, et donc du coup, on connaît un petit peu le mécanisme de ces médicaments, et on a voulu essayer de voir si on pouvait essayer avec ce médicament d'apporter des remèdes assez efficaces pour d'autres maladies neurodégénératives, comme notamment la maladie de Charcot. Donc il y a eu les résultats d'un essai clinique qui a été publié dans la revue Cell Stem et qui montre que ce fameux ropinirole est prometteur contre la maladie de Charcot parce que ça va retarder sa progression environ d'une trentaine de semaines en moyenne. Satoru Morimoto, il est neurologue et c'est lui qui a dirigé cette étude, il dit que nous avons constaté que le ropinirole est sûr et tolérable pour les patients atteints de la maladie de Charcot et qu'il est prometteur sur le plan thérapeutique pour les aider à maintenir leur activité quotidienne et leur force musculaire. Cette étude a été menée sur une vingtaine de patients japonais atteints d'une maladie de Charcot qui était non familiale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un gène porteur qui allait les prédisposer à cette maladie. On n'est pas dans ce cas-là. Et donc, du coup, on a fait 24 semaines d'essai. On a divisé le groupe en deux, il y a une moitié qui a utilisé donc ce médicament, le ropinirole, et l'autre a utilisé un placebo. On est dans une méthode à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont pris, et on regarde les résultats. Et on se rend compte que les personnes qui avaient reçu ce ropinirole, eh bien la mobilité, la force musculaire, la fonction pulmonaire diminuaient moins vite que les patients qui avaient reçu un placebo. Et on a ensuite refait cette expérience sur une plus longue durée. Les chercheurs ont également recherché, essayé d'identifier des marqueurs moléculaires de la maladie. L'idée, c'est de pouvoir essayer de comprendre les mécanismes à l'origine des effet de ce fameux ropinirole, et ils ont constaté que chez les personnes atteintes de la maladie de Charcot, ils avaient une certaine on a étudié ça un petit peu de près au niveau des neurones, et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient atteintes de la maladie de Charcot avaient une structure de ces neurones assez particulière et qui faisait que le ropinirol pouvait agir pour réduire un petit peu ces différences par rapport à des neurones sains, entre guillemets. C'est ce qu'on a constaté. C'est vraiment intéressant et important parce que du coup, alors là, on est encore sur une étude, j'allais dire, de première étape, parce qu'on est sur une vingtaine de patients. Donc les études doivent être approfondies sur plus grande échelle, en termes de quantité de personnes qui vont être impliquées, sur une plus grande durée, bien évidemment. Là, on est au tout début, mais en tout cas, ça donne des pistes vraiment intéressantes, des pistes qu'il va falloir un petit peu investiguer de façon un petit peu plus approfondie, pour essayer de savoir pourquoi certains patients réagissent mieux quand ils ont reçu ce ropinirol par rapport aux autres. Les hypothèses vont être étudiées avec un petit peu plus d'études qui vont être menées, mais en tout cas, voilà, un médicament contre la maladie de Parkinson pourrait ralentir aussi la maladie de Charcot, qui est une maladie totalement épouvantable. Donc voilà, un peu d'optimiste dans cette émission au niveau de ces maladies neurodégénératives. On écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite. Vous souhaitez réagir en direct, 06 95 065 026 uniquement par SMS, si vous souhaitez réagir face à l'actualité. On écoute un dernier titre dans cette émission et on terminera par feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Torino sur le toit de l'usine, tout en haut du Lingotto Building, l'avant-garde monte la garde. Là sur le circuit automobile, vu sur le stade olympique, à l'abri de moi dans ma vie. C'est pas le monde qui me pèse, alors c'est quoi? C'est pas l'attente qui m'obsède, c'est plutôt toi. Mais je veux pas m'en aller, je vois pas pourquoi je devrais laisser la place à d'autres que moi. Mais je veux pas m'en aller, je vois pas pourquoi. Mais je veux pas m'en aller. Mais je veux pas m'en aller. Dans la fumée, soudain pris au piège, Paris les pieds dans la neige, sous les gaz lacrymogènes. Du brouillard, que ces rues se dessinent dans le noir, une belle histoire qui finit mal. C'est pas le monde qui me frappe, alors c'est quoi? C'est pas l'attente qui me fait mal, est-ce que c'est toi? Mais je veux pas.
Torino, c'était Exxon Valdez sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous écoutez bien sûr sur la bande FM, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, sur le 94.9 et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, parce que vous avez la possibilité bien sûr de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Alors n'hésitez pas, toute l'actualité de Graphite bien sûr sur le site internet et les réseaux sociaux bien évidemment, pour que vous puissiez être informé de la programmation et de l'actualité de votre radio curieuse préférée. Alors il y a plusieurs, en fait, faut que je tourne le micro dans un sens, c'est pas simple, plusieurs événements qui ont lieu en juin, journée festive. La fête en plus qui aura lieu à Trolibreuil le 24 juin prochain, le festival des forêts qui démarre à partir du 21 juin jusqu'au 15 juillet, et aussi le festival NDC qui a lieu à, j'arrive même pas à lire, Porquericourt, pardon, c'est dans l'Oise, avec notamment les Fatal Picard et Coldplayed, c'est le 30 juin et le 1er juillet. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur l'antenne bien sûr de Graphite, mais voilà, vous pouvez commencer, de toute façon il y a plein de festivals, il y a plein de choses qui vont avoir lieu, notamment en Picardie, et donc Graphite vous tiendra informé bien sûr de tous ces de tous ces événements auxquels vous pouvez assister bien sûr. En dernière ligne droite sur l'antenne de Graphite avec Biotine, où on va parler de l'intelligence artificielle. Deux articles assez intéressants. Le premier concerne ChatGPT, parce que ça prend une ampleur et que c'est extraordinaire. On se souvient, je ne sais plus, je crois que c'était en février, il me semble, ou en mars, où j'avais demandé à ChatGPT de me rédiger un édito que je vous avais lu. On était sur les premières versions de ChatGPT qui s'est améliorée de plus en plus. Et en fait, on est vraiment sur une difficulté qui est qu'on ne va pas savoir si un étudiant, par exemple, ou un rédacteur, quel qu'il soit, a pu utiliser ChatGPT pour essayer de produire un essai, un article. On ne sait pas du tout si quel est l'auteur. Au bout d'un moment, ça va être assez difficile et assez pénible. Alors, il y a divers outils qui sont apparus pour aider à détecter de tels contenus, mais ils ne sont pas d'une haute fiabilité parce que il arrive couramment de se laisser abuser. Et d'ailleurs, cette détection, elle est devenue plus ardue avec les modèles récents de ChatGPT qui produit des textes de bien meilleure qualité que les versions précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il y a une étude qui a été menée par plusieurs universitaires américains et qui a été publiée par Cell Press, qui, cette étude, affirme qu'il serait au moins possible de distinguer un texte écrit par un scientifique d'un texte produit par ChatGPT avec une probabilité proche qui va jusqu'à 100%, donc ils sont assez catégoriques et assez sûrs de leurs résultats. Pour parvenir justement à un tel résultat, les chercheurs disent avoir mis à contribution avant tout à un outil de détection qu'ils ont appelé Robert, ou Robert peut-être, oui, peut-être en américain c'était plutôt Robert. Robert, c'est leur dispositif de détection, et ils ont affiné leur analyse et découvert différents facteurs inattendus, c'est-à-dire que les humains, les vrais humains, on va dire, auraient tendance à écrire davantage de phrases et aussi de mots dans un paragraphe, notamment des phrases avec plus de 34 mots par rapport à une intelligence artificielle. Ils ont aussi tendance à utiliser davantage certains termes tels que « cependant »,« parce que »,« bien que », c'est-à-dire qu'ils vont aller faire des phrases longues avec des causes-conséquences par rapport à une intelligence artificielle qui va peut-être faire des phrases plutôt courte et qui va bien séparer tout ça, parce que les humains ont tendance à employer des signes de ponctuation assez particuliers, le point d'interrogation et aussi les deux points, ce qui n'est pas encore totalement approprié par l'intelligence artificielle. Les chercheurs ont également remarqué que les universitaires avaient tendance à utiliser davantage de noms propres et d'acronymes, et que les humains étaient portés quand même à citer les noms des savants dont ils évoquaient les travaux, là où ChatGPT pouvait se montrer encore un petit peu plus vague, on va dire. Hélas, au bout du compte, l'étude qui a donc été publiée ne propose aucun outil. Elle donne quelques pistes, mais pas d'outils encore concrets qui pourraient aider à tester des cas de figure concrets. Et puis, cette étude, elle se limite à des articles purement scientifiques. On n'est pas sur des articles plus généraliste, on va dire. Et du coup, on est sur des difficultés à pouvoir identifier quels seraient des textes écrits par un vrai humain par rapport à des textes écrits par une intelligence par une intelligence artificielle. La distinction va être de plus en plus difficile. Et ça, ça va être un vrai sujet, bien sûr. Si maintenant les étudiants, ils ne rédigent plus rien et c'est tout l'intelligence artificielle qui fait le travail à leur place, ça va être assez compliqué. Ça, c'est un premier sujet au niveau de l'intelligence artificielle. Le deuxième est un petit peu plus inquiétant. C'est une annonce qui a été faite lors d'une rencontre militaire à Londres en mai dernier. Il y a un colonel de l'armée de l'air américaine qui s'appelle Tucker Hamilton. Il a expliqué que lors d'un test, il y a eu un drone de combat contrôlé par une intelligence artificielle qui a décidé de tuer son opérateur pour accomplir sa mission. Alors, il s'agit d'une simulation virtuelle. Il n'empêche que le comportement de cette intelligence artificielle a dérouté et a inquiété les militaires. Selon donc ce colonel de l'armée de l'air, l'intelligence artificielle a utilisé des stratégies très inattendues pour atteindre son objectif. Et donc, ce drone autonome avait pour mission de détruire des systèmes de défense aérienne d'un ennemi. Et à partir du moment où le drone a identifié les infrastructures ennemies, l'opérateur humain, il a décidé d'annuler la frappe. Sauf que l'algorithme de l'intelligence artificielle était formé pour obtenir des points de bonus en cas de mission menée à terme. Et l'intelligence artificielle a donc considéré que l'opérateur humain l'empêchait d'atteindre cet objectif. Et donc, l'intelligence artificielle a décidé d'éliminer cet humain, parce que ça bloquait son objectif final. Alors, bien sûr, lors de sa formation, l'intelligence artificielle avait été conditionnée pour ne pas tuer l'opérateur. Une telle décision engendrant une perte de gratification. Sauf que l'intelligence artificielle, quelque part, elle a pesé le pour et le contre, et elle a peut-être considérer que supprimer l'opérateur lui valait moins que d'atteindre l'objectif. Et donc du coup, l'intelligence artificielle a considéré que ce qui était mieux, c'était d'atteindre l'objectif final, donc la poursuite de la mission, parce que c'était des bonus beaucoup plus importants que les malus, entre guillemets, du fait de tuer l'opérateur. C'est assez inquiétant. En tout cas, cette annonce faite par ce colonel de l'armée de l'air a fait beaucoup parler, et à la suite de cette déclaration, la porte-parole de l'US Air Force, elle s'appelle Anne Stefanek, elle a nié qu'une telle simulation ait eu lieu. Elle a rappelé l'engagement éthique des militaires sur les technologies d'intelligence artificielle. Elle a ajouté que les explications du colonel avaient été sorties de leur contexte et se voulaient anecdotiques. Alors, si c'est exagéré ou non, cette histoire, elle montre que l'on ne peut pas laisser trop d'autonomie aux intelligences artificielles sans poser au préalable un cadre éthique. Et ça fait des années que je vous en parle. On est vraiment en train de passer à côté des sujets purement éthiques, que ce soit en termes de médecine, que ce soit en termes d'intelligence artificielle. La menace existentielle engendrée par les intelligences artificielles, c'est précisément toute l'inquiétude de plusieurs centaines de signataires d'une courte publication qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Les plus grands experts et les pères des intelligences artificielles modernes comparent le risque des intelligences artificielles à celui d'une guerre nucléaire ou d'une pandémie. Eh bien, ça vous refroidit. L'arrivée et l'utilisation des systèmes d'armes autonomes ne sont plus une nouveauté et inquiètent depuis plusieurs années les plus hautes instances, notamment l'ONU. Il y a eu 125 membres de l'ONU qui ne sont pas parvenus à créer un consensus sur une réglementation. Il n'est clairement plus question de les interdire. Et d'ailleurs, les doctrines militaires autour de l'utilisation de ces armes diffèrent selon les pays. On n'arrive pas à se mettre d'accord. La technologie avance. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? On n'en sait rien. C'est vraiment assez... C'est des questions que l'on pose. Alors, que cette histoire soit vraie ou non, quelque part, ce n'est pas nécessairement le sujet. C'est-à-dire qu'on est en train de voir des technologies qui prennent un essor totalement intéressant d'un point de vue purement technologique, justement, au niveau scientifique du sujet. C'est totalement fascinant. C'est ce que je vous dis depuis aussi plusieurs années que j'anime cette émission. Mais au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on en a besoin ? Comment on contrôle tout ça ? et pour quel dispositif. C'est des vrais sujets qu'il va falloir évoquer. On ne manquera pas de revenir sur ces sujets-là lors des prochaines émissions de Biotine. Il est bientôt 13h, c'est le temps pour moi de rendre l'antenne. On se retrouve samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite pour une nouvelle émission de Biotine. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt à tous. Au revoir.